Psychiatrie pendant la guerre d'Indochine.
Toi, tu as beaucoup travaillé sur le service psychiatrique de Chokwan, donc à Saïgon, pendant la guerre d'Indochine. Tu as une vision très large, en fait, des soldats du corps expéditionnaire qui sont hospitalisés en psychiatrie à cette époque. Tandis que moi, depuis peu, je mène une enquête sur les soldats ouest-africains de l'armée coloniale qui sont rapatriés pour troubles psychiques, à la fois pendant la guerre d'Indochine et pendant celle d'Algérie. Il faut d'abord revenir sur le contexte de la guerre d'Indochine, qui commence juste après la Deuxième Guerre mondiale et qui va durer 8 ans, de 1946 à 1954, et pour laquelle l'armée française recrute en masse afin de contrer l'insurrection indépendantiste indochinoise.
Donc elle va recruter des combattants très variés, parce que dans ce moment de sortie de guerre, on a de grandes difficultés de recrutement. On va notamment avoir des tirailleurs, ceux sur lesquels tu travailles, mais aussi des soldats de la métropole, des légionnaires qui viennent un peu de partout en Europe. On va avoir cette population très diverse qui va connaître finalement des taux de morbidité psychiatrique assez importants. Et c'est près de 21 000 combattants du corps expéditionnaire qui seront pris en charge pour troubles psychiques à ce moment-là.
Et dans ce corps expéditionnaire, effectivement, donc qui fait à peu près un demi-million de soldats en tout, sur toute la durée de la guerre, avec un appel aux colonies de plus en plus important au fur et à mesure que le conflit s'exacerbe, devient de plus en plus violent. Et donc les tirailleurs d'Afrique subsaharienne, c'est une partie des soldats de l'Empire colonial français qui participent, mais ça représente environ 60 000 soldats sur ce demi-million du corps expéditionnaire français au total.
C'est nous les Africains qui revenons de...
Donc voilà le dossier de Moussa El. Moussa El, c'est un pseudonyme que j'ai choisi. Donc c'est un tirailleur guinéen d'une petite vingtaine d'années. Ce qui est intéressant, c'est que il est d'abord hospitalisé à Tourane, là où il sert. Donc Tourane, c'est une grosse base militaire aérienne française qui est située sur la côte de la Nam en Indochine. Et en fait, c'est une des missions privilégiées des tirailleurs sénégalais que d'être les gardes de cet endroit. Donc Moussa El, c'est pas quelqu'un qui est dans une unité combattante. Mais plutôt que de faire juste son service militaire, on va le convaincre de s'engager pour l'Indochine. Ça, c'est aussi une stratégie assez commune de l'armée dans les colonies. Et je voulais te montrer ce dossier. En fait, ce qui est sorti du lot pour moi dans ce dossier, c'est que c'est le seul où j'ai trouvé deux lettres manuscrites signées du nom du soldat.
J'ai trouvé une photo d'un patient aussi, une fois. C'est assez rare, et en même temps, pour avoir travaillé sur presque 1000 dossiers là récemment, ça arrive régulièrement, et c'est vrai que c'est toujours une grosse émotion, parce que subitement surgit une individualité, une subjectivité. Mmh. Le fait, effectivement, qu'on ait des regards différents de médecins, on finit par... Enfin, surgit la voix du malade. Et là, ça devient intéressant parce qu'on sort de ces sources purement administratives, purement militaires, très rigides.
Qui écrasent,
tout à fait, qui sont vraiment surplombantes. Et en même temps, parfois, qui parlent de choses, j'allais dire... dramatiquement humaine. Et c'est là où les dossiers sont quand même vraiment une source intéressante, parce qu'on a à la fois ces logiques de domination, d'oppression qui sont là, et en même temps parfois on arrive quand même à apercevoir les patients.
Rapport du chef de bataillon Rivière commandant la compagnie de garde de l'air numéro 590 au sujet du soldat africain de deuxième classe Moussa El. Depuis son arrivée à la compagnie en novembre 1952, le soldat africain Moussa El avait attiré mon attention par un comportement anormal, tantôt apathique, tantôt se montrant très excité et d'une nervosité excessive. Un soir, vers le 10 décembre, sans aucune raison apparente. Armé d'un couteau, il se met en état de fureur, se livrant à des gestes très désordonnés, en parcourant le cantonnement dans tous les sens. La semaine suivante, étant de garde la nuit dans une tour, il s'emporte violemment et débite des flots de paroles ininterrompus et plus ou moins compréhensibles, touchant les cadres et l'armée en général. Après quelques jours d'accalmie, le 14 janvier, il fait une crise particulièrement violente. Brusquement s'en prend à un gradé européen, l'appelle et lui dit « Pourquoi tu as insulté mon père ?» Il hausse le ton et cherche querelle à ce gradé. Finalement, il consent à se rendre de lui-même à l'infirmerie de la base, mais se proposant de tuer l'adjudant de compagnie qui, prétendait-il, l'avait traité de nègre. Après enquête, j'ai appris sur son compte, en particulier par un Africain du même village que lui, qu'il était déjà connu, étant enfant, comme étant sujet à des crises de nerfs, à la suite desquelles il tombait, puis se calmait. Considérant qu'en état de crise, ce militaire est dangereux, j'ai l'honneur de demander son rapatriement sanitaire pour troubles mentaux.
Alors là, on arrive dans les magasins, une partie des magasins d'archives en tout cas, du service. On voit tout un tas de rayonnages remplis de cartons. Algérie, ici Maroc, Tunisie. Et là, on arrive à Extrême-Orient. Toujours avec des noms de lieux, de villes. Et ensuite, on a ce rayonnage navire-hôpitaux. On retrouve la manière dont moi, je suis arrivée au dossier de ce fameux Moussa El. C'est-à-dire que j'ai consulté des registres pour l'année 52 et 53 de navire-hôpitaux. Donc c'est le navire-hôpital Oregon du 8 mars 53 par lequel Moussa El a été rapatrié de l'Indochine vers la métropole avant de rentrer, on imagine, en Afrique occidentale, en Guinée. Et là, en fait, c'est trié par type d'affection. On a un sommaire qui nous explique d'abord le récapitulatif, les blessés chirurgicaux, médicaux, tuberculeux et mentaux. Et dans mentaux, on a trois catégories, mentaux calmes, mentaux demi-agités et mentaux agités. Et page 41, et on retrouve ici, il est en fait dans mentaux demi-agités, hein, le sixième dans la liste, c'est bien notre tirailleur seconde classe à la compagnie de garde de l'air. Et la phrase juste de diagnostic, c'est « idée de persécution avec agitation psychomotrice ».
Nous allons aller dans le magasin d'archives à côté pour aller chercher dans le fichier général le dossier médical de ce soldat. Donc dans ces boîtes, les dossiers sont classés par ordre alphabétique. Il vous faut trouver le bon dossier.
Docteur Bigot, médecin à l'hôpital de Tourane, le 14 janvier. L'histoire racontée par le malade. Au cours d'une observation faite par un sous-officier, ce dernier l'aurait traité de nègre. Moussa El, n'admettons pas cette appellation, se serait emporté à lui dire qu'il lui casserait la... S'il l'appelait ainsi, Moussa El aurait ajouté... Un adjudant doit punir, mais pas m'insulter. Il ajoute que ce qui le vexe, c'est d'être considéré comme un fou alors qu'il ne l'est pas. Réinterrogé quelques jours après sur les motifs de son admission, il raconte la même histoire d'une façon très intelligible et très calme. Docteur Delouvain, psychiatre à l'hôpital de Chokwan, Saigon, début février. À l'examen, sujet assez à l'aise, logoréique, fort de son droit, ne reconnaît absolument pas les faits qui lui sont reprochés, en donnant une version tout à son avantage. L'insulte de sale nègre revient comme un leitmotiv. C'est le seul élément racial que l'on puisse trouver. En raison de l'agressivité et des crises d'excitation motrice violente du sujet, il est nécessaire d'envisager son élimination définitive de l'armée. En conclusion, à réformer.
Monsieur le directeur, le capitaine médecin-chef à la base SP 61-552. Je vous ai correspondant en ces lettres pour savoir, comme je suis en bonne santé, que moi, je le présente bien que l'armée française. Mais lui ne m'a pas donné à la bonne santé, mais il m'a dit de le tourner mon tête, que moi, je n'ai pas de capacité. Comme le adjudant qui si de capacité, comme des adjudants ne m'a jamais dit. Maltraiter, c'est bien des nègres. C'est pour ça que m'a dit même commission. Mais moi, toujours, je me présente l'armée française en bonne santé. Bon, maintenant, je vous salue bien. Je termine ma lettre. Le soldat deuxième classe, Moussa L, numéro 37-186.
C'est tout ce qu'on a, cette lettre, d'une certaine manière, de directement reliée à notre soldat, et ça le fait exister d'une manière bien particulière. J'en ai longuement parlé avec une collègue sociolinguiste, Cécile Van Den Haven, qui travaille beaucoup sur les lettres de tirailleurs, alors plutôt pour la Première Guerre mondiale, mais surtout sur le français tirailleur, donc cette langue vraiment spécifique à l'institution militaire coloniale. Hein. Mais ici, on est face à quelque chose qui n'est pas tellement de cet ordre-là, de cette langue, parce que parfois il y a des mots avec une orthographe assez complexe qui sont correctement écrits, et par contre certains mots qui sont pas du tout identifiables. La question que je me pose, c'est de savoir si cette graphie spécifique, si ce vocabulaire étonnant, il est dû à la difficulté avec la langue du soldat, mais le reste du dossier dans l'échange avec les médecins semble montrer qu'il s'exprime facilement, ou bien à son état psychique qu'on imagine là au plus mal. Mais la question de la langue, elle est vraiment centrale dans cette affaire.
On l'a dit tout à l'heure, hein, mais il y a une grande diversité en termes d'origine des soldats en Indochine, ce qui fait que dans la pratique psychiatrique au quotidien, c'est un véritable défi. On a ainsi beaucoup de dossiers, notamment de tirailleurs, où on va avoir des diagnostics de débilité mentale, d'oligophrénie, d'arriération mentale. Effectivement, la question, c'est aussi comment ces problèmes de langue pèsent aussi sur la définition des troubles en elles-mêmes.
Là, ce qui m'importe avec ce dossier, c'est de poser cette question de l'incommunicabilité dans l'institution militaire coloniale, et encore plus quand il s'agit de santé mentale et de troubles psychiques.
Ça me fait penser à un dossier d'un tirailleur sénégalais qui... on retrouve une lettre qu'il adresse lui aussi à son capitaine, où il revient sur sa situation à l'hôpital de Chokwane, où il explique qu'en fait, il est fou parce qu'il est là, en Indochine, et il dit « Si j'étais au Sénégal, cela ne serait pas la même chose. » Et là, il n'y a vraiment pas de problème de maîtrise de la langue, puisque dans la lettre, il écrit un français tout à fait correct. Et pour autant, il va être taxé d'un diagnostic de débile mental, arriéré, alors même que c'est en complet décalage avec ce qu'on perçoit, en tout cas dans le dossier. Et puis aussi cette idée que, bah, effectivement, le patient lui-même met au compte du contexte colonial et guerrier sa folie.
C'est évidemment quelque chose qui traverse toute la relation coloniale, cette question de la langue et finalement de maintenir la position du colonial sur le colonisé, c'est bien de le maintenir dans un défaut de langue qui va l'inférioriser en permanence en fait. Et moi je me suis dit, j'aurais envie de l'entendre dire ce que je comprends de sa lettre, mais dans sa langue maternelle.
Comme le Adjidan Kessi des capacités, comme des Adjidan ne m'a jamais dit. Maltraiter, c'est bien des nègres. C'est pour ça que m'a dit, même comme ils sont, mais moi toujours, je me présente
Kaïda armée française en bonne santé.
Kafokun kende anumala. Mais Anna Adjidan chef, a comme un concours sinité, kunde te se baraké la boutou anumala. Malan, a kofo mamina. Kaban kanani, kanfanani. Kanna mobal nani. Amada on fana madi fo ka fo mo kunde farafinke mo noni mala yo fo la mamina akofo mamina mala akofo mamina adon depinde bilada sore ase abara mena nyake la nyumala e pi nyato wabu kan fo la nyumala me malo minka alo me kela ndila ole gbani na nyumala ole kantoro o mo toto le ton valido ole gbani na.
A éliminé définitivement de l'armée. Indochine, 1953.
Une enquête historique menée par Camille Évrard. Réalisation, prise de son et montage, Chloé Despax. Dans le rôle de Moussa El, Babalanfia Soirée. Aide à l'interprétation, Mac Béali Yatara. Dans le rôle de l'institution des médecins militaires et du chef de bataillon, Jean-Claude Dumas. Avec la participation de Fabien Jimé et Élodie Charrier. Mixage, Jean-Baptiste Imbert. Produit par le projet de recherche MADAF, Madness in Africa. Financé par le Conseil européen de la recherche. Une coproduction Radio Grenouille, Euphonia. Troisième épisode par Paul Marquis. Un taxi pour Berouaghia. Algérie, été 1962.
Ce n'est pas encore la plus grande fête et la victoire. C'est le 16 juillet 1962. Vive la LN et les FLN.
Vive la Dibandos.
Vive la Algérie.
Vive la Dibandos.
Vive la liberté.
Hôpital psychiatrique de Blida, département d'Alger. Dossier médical. Aline D, 28 ans. Célibataire ou épouse de, non renseignée. Profession, 100. Né le 16 décembre 1934 à Annecy. Domicilié à Médéa Café Glacier. Entré le 19 juillet 1962. Copie du certificat d'admission. Jeune femme européenne, vraisemblablement déséquilibrée constitutionnelle, ayant fait une bouffée délirante avec hallucination polysensorielle. Réactionnelle aux festivités de l'indépendance. À point éthylique. Cette malade a déjà subi une cure de désintoxication dans une clinique suisse. Doit être admise pour traitement dans un hôpital psychiatrique.
«
Paul, tu travailles sur l'histoire de la psychiatrie coloniale depuis plusieurs années. Comment est-ce que tu as découvert ce dossier d'Aline D?
J'ai découvert ce dossier dans le cadre de mon travail de thèse qui portait sur l'histoire de la psychiatrie coloniale en Algérie. Aline D est admise au sein de l'hôpital psychiatrique de Blida, autrement dit l'HPB, qui ouvre ses portes en 1933. Et au moment de son admission, à l'été 1962, l'HPB est encore l'un des deux seuls établissements psychiatriques publics de toute l'Algérie nouvellement indépendante. Au cours de mes recherches, j'ai eu la chance d'accéder aux milliers de dossiers de patients qui sont admis au sein de l'HPB entre les années 30 et les années 60. Et le dossier d'Aline D faisait partie de ce large corpus de dossiers.
Pourquoi ce dossier en particulier a-t-il retenu ton attention ?
La trajectoire de cette jeune femme, qui est partiellement retracée dans son dossier médical, a fait résonner quelque chose chez moi. Bien que les dossiers se présentent sous une forme très stéréotypée, ils sont souvent porteurs d'une charge émotionnelle et affective très forte, auxquelles les historiennes et historiens du social sont vraiment sensibles. Il y a quelque chose de tragique, en fait, dans la trajectoire de cette jeune femme qui est prise dans les derniers soubresauts de la guerre d'indépendance algérienne.
Au moment de son admission, on entend ce diagnostic de déséquilibré constitutionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi il renvoie ?
Le libellé renvoie à une théorie qui est formulée à la fin du 19e siècle et qu'on pourrait désigner comme la théorie de la prédisposition. C'est une théorie qui consiste à considérer que certains individus seraient prédisposés à la maladie mentale du fait de leur terrain biologique et psychique. Et dans le cas d'Aline D, le médecin qui est en charge de son diagnostic d'admission identifie l'alcoolisme comme un facteur prédisposant à la maladie mentale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, il fait apparaître les festivités de l'indépendance comme un élément déclencheur. Et en fait, il y a déjà une forme de hiérarchie entre d'un côté l'alcoolisme qui serait l'élément prédisposant et les festivités qui ne seraient qu'un élément déclencheur. Cette formulation diagnostique telle qu'elle est énoncée là, d'une certaine manière, fait peser la responsabilité de la maladie sur la patiente en question, sur Aline D.
Entretien avec la malade. 31 juillet 1962. Malade, allongée sur le canapé, médecin assise à côté d'elle.
Je suis née à Annecy en 1934. Nous sommes six frères et sœurs, je suis la troisième. Mon préféré, Claude, il fait son service militaire et il a rempilé. Mon père est très sévère, il a été dans le camp de concentration de Buchenwald pendant 3 ans. Nous hébergeons des gars de la résistance.
Un souvenir pénible de cette époque?
J'avais 8 ans et...
J'ai peur la nuit.
J'ai encore peur la nuit.
Nous arrivons à apprendre qu'un garçon a tenté de la violenter. Délivré par les résistants. Entre parenthèses, souvenir confus.
Paul, dans quel cadre se déroule l'échange qui est mis en scène dans la séquence précédente ?
C'est un extrait de l'entretien qui est mené entre la psychiatre Suzanne Misserlitsch et la patiente Aline D au moment de son admission en juillet 62. Et c'est donc l'extrait tel qu'il est retranscrit dans le dossier. Tous les patients et patientes, quand ils sont admis à l'hôpital psychiatrique de Blida, sont soumis à un ou plusieurs entretiens qui sont menés par un ou une psychiatre ou l'un de leurs internes. Et les questions qui sont posées au moment de ces entretiens ou de cet entretien ont pour vocation à retracer la trajectoire de la malade afin de déterminer ce qui pourrait jouer dans le déclenchement de la maladie. Dans le vocabulaire psychiatrique, on parle d'anamnèse pour qualifier ce processus.
Et les entretiens d'admission sont-ils systématiquement et intégralement retranscrits dans les dossiers de patients ?
À ce niveau, les situations sont extrêmement variables d'un dossier à l'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les retranscriptions intégrales sont très rares. Généralement, ce que je retrouve dans les dossiers, c'est un résumé de quelques lignes qui reprend les principaux éléments de l'entretien avec ce que le psychiatre ou la psychiatre considère comme signifiant. Ce qu'on pourrait dire en définitive, c'est que tous les éléments qui sont retranscrits dans le dossier sont toujours filtrés par la psychiatre et qu'en fait, on a une retranscription qui est à la fois partielle et partiale de l'entretien qui a été mené entre les deux femmes.
Selon toi, qu'est-ce que cette retranscription laisse finalement transparaître de l'entretien entre Aline D. et la psychiatre ?
Contrairement au sociologue, l'historien ne peut pas accéder de visu à la scène qu'il étudie. Il est toujours conditionné à l'archive sur laquelle il travaille. Et évidemment, cette archive, ce dossier, ne donne que partiellement à voir les échanges, les interactions qu'il y a entre la psychiatre et la malade. Mais on a quand même une idée de ce qui se joue entre elles. En fait, d'un côté, on a la psychiatre, dont l'enjeu est de mettre en confiance la malade pour obtenir le maximum d'informations sur sa vie et sur sa trajectoire. Et puis, de l'autre côté, on a une patiente qui oscille entre des postures de réticence. En fait, elle est placée dans une position où elle doit arbitrer entre ce qu'elle peut, veut ou doit dire à la psychiatre et ce qu'elle souhaite conserver pour elle pour maintenir son intégrité morale et psychique.
Vous vous êtes fait soigner en Suisse ? Une cure contre l'alcool ?
Oui, pendant 3 semaines. J'aime bien l'apéritif, le champagne.
Et après votre divorce ?
Mon père m'a reprise, mais il m'interdisait de sortir. Je le faisais quand même. Il m'a roué de coups, alors je suis partie sans dire au revoir à personne.
Où alliez-vous ? Connaissiez-vous quelqu'un en Algérie ?
Une dame d'Algérie au café m'a prêté le journal d'Alger. J'ai lu une petite annonce barmaid demandée d'urgence. Je suis partie, sans écrire.
En quelle année ?
En 1960. Je ne sais pas. J'étais déjà ici pour les barricades. J'y étais. Je connais très bien la Gaillarde, sa femme. Je leur portais du café. Et ça m'a valu des histoires avec la police.
À Alger, elle a successivement travaillé dans plusieurs bars, dont certains dotés de chambres de paste. Les aurait quittés, aussitôt avisés des services qu'on attendait d'elle. C'est le seul point de l'entretien dont la véracité est suspecte.
Les violences et les stéréotypes de genre sont très présents dans le dossier d'Aline D.
Oui, la trajectoire d'Aline D est ponctuée de violences de genre qui pèsent sur son itinéraire. On peut penser à l'agression qu'elle subit quand elle est enfant. On peut penser aux accusations de sa belle-mère d'être une femme dénaturée parce qu'elle s'occuperait mal de ses enfants. On peut aussi penser aux violences de son père au moment où elle retourne chez lui après avoir divorcé. Et le fait d'être une femme n'exonère pas non plus la psychiatre de stéréotypes de genre et de stéréotypes moraux sur la trajectoire d'Aline D. Elle reprend aussi cette question de l'alcoolisme sur laquelle elle interroge la jeune femme. Elle évoque aussi des soupçons de prostitution et de frivolité. En fait, on voit bien à quel point toute la vie de cette jeune femme, toute sa trajectoire est relue à l'aune du déséquilibre constitutionnel dont elle serait supposément atteinte. D'une certaine manière, on pourrait dire que le passé de la jeune femme devient son passif psychiatrique.
Comment ces violences de genre s'articulent-elles aux violences de guerre auxquelles Aline D fait face après son installation en Algérie ?
Le point commun entre ces violences, qu'elles soient de genre ou de guerre, est qu'elles disparaissent des différents diagnostics qui ponctuent l'hospitalisation d'Aline D. En quelque sorte, l'anamnèse se traduit par une forme de dépolitisation de la vie de la patiente. Aline D arrive pourtant en pleine guerre d'indépendance algérienne, à un moment où certains Européens commencent à faire le trajet en sens inverse. Et elle se trouve mêlée à un événement marquant du conflit, la semaine des barricades.
Quelques mots sur l'événement ?
La semaine des barricades est un mouvement insurrectionnel qui se déroule du 24 janvier au 1er février 1960. C'est un événement qui se produit dans un contexte très particulier, qui est celui de la politique d'autodétermination qui a été engagée quelques mois auparavant par le général de Gaulle. Et cette politique a suscité un profond mécontentement chez une partie de la population européenne qui est partisane du maintien de l'Algérie française puisqu'elle risque, à terme, de déboucher sur l'indépendance de l'Algérie. Et donc au cours de la semaine en question, de violents affrontements opposent à Alger, d'un côté les forces de l'ordre, et de l'autre les insurgés, qui bénéficient de l'implication et du soutien d'une partie de l'armée. Le député Pierre Lagaillarde, à qui Aline D dit avoir servi le café, est l'un des chefs de file de ce mouvement insurrectionnel, qui éclate donc en janvier 1960. Il fonde par la suite l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, qui est une organisation clandestine qui s'oppose très violemment à l'indépendance de l'Algérie.
Dans la nuit d'Alger, ce soir de vendredi, tout le monde attend, aux barricades comme dans les postes de garde. Insurgés et militaires, tout le monde attend d'une même attente le discours que va prononcer le général de Gaulle. Et de Gaulle parle.
Certains à Alger sont entrés en